enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ésaïe chapitre 58 et au verset 12. Ésaïe 58 et au verset 12. Alléluia. Ésaïe chapitre 58 et au verset 12. Nous allons voir là un verset qui est absolument merveilleux. Il nous est dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alléluia. Amen. Regardez ce verset. Et ce verset, c'est un verset, c'est le verset des quatre R. Il y a le verbe rebâtir. Il y a relever. Il y a réparer. Il y a restauré. Combien croient que le Seigneur veut faire une œuvre miraculeuse? Alléluia! Alléluia! La parole de Dieu nous dit là dans ce verset qu'il veut rebâtir. Dieu veut relever. Il veut réparer. Et il veut restaurer. Alléluia! Est-ce qu'on peut se lever quelques instants et louer le Seigneur? Alléluia! Remercier le Seigneur pour l'œuvre qu'il veut faire. Alléluia! Merci Seigneur pour cette œuvre magnifique, Seigneur. Seigneur, tu veux réparer, relever, restaurer, rebâtir. Seigneur, et ma prière, et celle de l'Église ce matin, c'est que tu le fasses. Seigneur Jésus, oh, fais ton œuvre puissante, Seigneur. Alléluia, que ton esprit, Seigneur, puisse descendre dans ce lieu. Seigneur, que tu puisses nous utiliser jour après jour. Seigneur, pour accomplir ta volonté, Seigneur. Seigneur, cette mission merveilleuse, Seigneur. Seigneur, merveilleuse de pouvoir rebâtir, restaurer, relever, réparer, Seigneur. Alléluia. Saisis-nous par cette vision. Saisis-nous par ce fardeau, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras, Seigneur, ce matin. Bénis ta parole. Bénis, Seigneur, tes serviteurs. Bénis l'Église, chacun de ceux qui sont là ce matin. Et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Nous sommes dans cette série de messages où nous allons parler de réparer, de rebâtir. Le thème du message principal de cette série, c'est rebâtir le temple. Et j'aimerais autour... Alors que nous allons partager quelques études ensemble, peut-être que toutes ces études ne vont pas concerner tout le monde, mais peut-être que ça va vous aider à comprendre les autres. On vit dans un environnement où chaque jour, il y a des hommes et des femmes qui se détruisent. Est-ce que vous réalisez ça? Cette semaine, il y a l'une de mes connaissances qui s'est pendue. Dans l'entreprise Petit Jean où je travaillais avant, cet homme a traversé des épreuves dans sa vie. Cet homme-là a vécu un divorce. Et ses enfants n'ont pas voulu le voir. Et cet homme est tombé dans une grande détresse. Et quand vous parliez avec lui, il apparaissait que, apparemment, ça allait bien. Et quand vous lui demandiez, mais comment ça va? Ça va. Mais au plus profond de lui-même, il y avait une douleur. Il y avait une souffrance. Il y avait quelque chose qui était violent. Et l'épreuve qu'il a vécue a provoqué des traumatismes incroyables dans son esprit. Et ce qui se passe lorsque quelqu'un traverse des épreuves, quand quelqu'un traverse des difficultés, Il nous faut comprendre et vous devez comprendre que ce sont vos pensées qui sont attaquées. Il y a là votre esprit qui est attaqué. Et pendant un temps, on essaye de contrôler la situation avec nos pensées. On essaye de gérer la situation. Et quand finalement, on n'est plus sous contrôle de rien du tout, on explose. Ou plutôt, on implose. Il y a quelque chose de violent dans nos pensées. Et quand la douleur est si forte, cette oppression qui est là en nous, la détresse qui est là dans le cœur, les problèmes que nous ne pouvons plus gérer deviennent des éléments dans notre esprit qui font que l'oppression va devenir rapidement une dépression. Et la dépression, c'est finalement s'arrêter sur une partie de cette vie-là. C'est un arrêt sur image, sur un moment malheureux de la vie. Et on est incapable de voir ce qui peut se passer après. Lorsqu'une personne tombe dans la dépression, quand une personne est en proie dans une difficulté ou même simplement dépendant d'un péché, la personne est incapable de se projeter dans l'avenir. Et quand la douleur est si forte qu'elle ne peut pas gérer cette situation-là, alors elle pense au suicide. Et
ce
n'est pas que la personne veut mourir. Et une personne qui se suicide, ce n'est pas quelqu'un qui veut mourir. C'est quelqu'un qui veut arrêter de souffrir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et au travers de toute cette série de messages que nous allons voir ensemble, on va essayer de comprendre ces clés-là. Et on va essayer de voir ce que Dieu nous dit dans sa parole pour changer les choses. Et pour finalement entrer sur le chemin du bonheur. Il existe un chemin du bonheur. Il existe une vie paisible. La Bible nous dit dans le psaume 16, verset 11, qu'il y a un sentier de la vie. Matthieu chapitre 7 nous parle d'un chemin qui mène à la vie. Mon frère, ma soeur, mon ami, c'est de ce chemin-là que l'on va emprunter. C'est un chemin en plusieurs étapes. Quand nous allons sortir de cette réunion, on n'aura pas toutes les clés. On
ne
sera pas totalement guéri. Mais ce sera la première étape du chemin du bonheur. Et je vous invite à jamais manquer aucune de ces réunions. Parce que sinon vous allez manquer des clés importantes pour votre vie. Et si vous n'êtes pas là, si vous êtes malade ou absent au travail, peu importe, ben, demandez le CD. Amen. Alléluia. Bien sûr, nous allons prendre. Alors, aujourd'hui, ce matin, ça va être très, très théologique.
Et ça va votre petit.
Et on va rentrer dans des choses très pratiques à partir de la semaine prochaine. Et on va rentrer à nouveau dans le livre d'Esdras. Où nous voyons dans le livre d'Esdras que le temple de Dieu, le temple où l'on adorait à Jérusalem, était totalement détruit. Quand il est détruit, ça faisait 70 ans qu'il était détruit. Et même un peu plus. Et il y avait une première partie du peuple de Dieu qui était retourné en Israël. Et finalement, il y a les deux dernières tribus qui rentrent en Israël maintenant. Et à partir de ce moment-là, ben, en fait, il faut compter, ça faisait 70 ans que ces dernières tribus étaient en captivité. Ça faisait 70 ans que ce peuple-là avait été emmené captif dans un pays étranger. 70 années que le temple qui était dédié à la louange et à l'adoration était détruit. 70 ans que les ustensiles qui servaient à l'adoration dans le temple avaient été volés par Dieu, par l'ennemi. Mais la Bible nous dit qu'au temps qui a été fixé par Dieu, et quand finalement le peuple de Dieu était prêt à retourner en Israël, Dieu s'est souvenu de ses promesses qu'il avait faites par le prophète Jérémie. Et Jérémie chapitre 19 verset 10, il nous a dit ceci: mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Il y a un temps qui est fixé pour la restauration. Maintenant, si vous vivez des événements malheureux dans votre vie, si dans votre vie vous vivez une situation qui est terrible, ma prière, c'est que vous compreniez que ne vous arrêtez pas sur cet événement-là ce matin. Parce que c'est comme si vous regardiez, vous voyez, un défilé des majorettes, par exemple, au travers le trou d'une serrure. Et puis vous voyez une personne avec une trompette qui passe. Et puis vous voyez une fille qui est là avec des bâtons dans la main. Et puis, mais vous ne voyez pas tout. Vous
ne
voyez pas ce qui se passe. Vous voyez un événement l'un après l'autre.
Mais
le Dieu des cieux, celui qui vous a créé, lui connaît toute votre vie. Il connaissait dès que vous étiez dans le ventre de votre maman, il savait, il vous connaissait déjà. Et il connaît les événements qui ont marqué votre vie. Et il sait ce qui va venir après. Et mais il y a un temps fixé pour la restauration. Et ce temps, c'est maintenant. Alléluia! Amen. Dès que les 70 ans sont passés, le Seigneur a dit, ben moi je connais des projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et pas des projets de malheur. Pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Moi, vous allez me prier et je vais vous exaucer. Et vous allez me chercher et vous allez me trouver. Et en général, dans ces moments-là, la plupart des gens, et même souvent des chrétiens, disent, pasteur, non, je ne comprends pas ce que tu dis. Moi, c'est pas ce qui se passe avec moi. Moi, je ne vis pas des projets de paix.
Je n'ai
pas des projets de bonheur. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Pour que les choses changent. Et pour comprendre ce qui se passe finalement dans votre vie, il vous faut comprendre ce qui se passe dans ce monde.
Savez,
une fois, il y avait un père de famille qui était tellement fatigué et il voulait dormir le matin. Et puis à 7h30 le matin, il y a sa petite fille qui est venue le voir. Il dit, papa, lève-toi, je veux jouer avec toi. Je ne fais pas bien la petite fille. Hein. Et le papa était fatigué. Et puis il dit, attends, j'ai un jeu pour toi. Et il a pris la carte du monde, la map monde. Et il avait tous les pays qui étaient là. Et il a découpé tous ces pays. Il a fait plusieurs puzzles. Et puis il a dit à sa fille, mais écoute ma fille, quand tu auras fini le puzzle, quand tu auras mis tous les pays ensemble comme il faut, alors tu viens me revoir, et puis là on va jouer ensemble. Et lui il était content, il s'est dit, au moins là j'en ai au moins pour une heure. Et puis 10 minutes plus tard, la petite fille est venue le voir. Papa, j'ai fini. Et papa, il dit, comment t'as fini? C'est pas possible que t'as fini. Et il dit, si, papa.
Astavayo.
Parce que derrière la carte,
il
y avait un grand visage. Et finalement, j'ai reconstitué le visage. Et en reconstituant le visage, elle a reconstitué le monde. Et en fait, en reconstituant, en comprenant ce qui se passe dans ce monde, vous allez pouvoir reconstituer ce qui se passe dans votre vie. Amen. Alors, pour comprendre
ça,
vous devez savoir que lorsque Dieu a créé l'homme, Satan existait déjà. Dieu a créé cet univers. Dieu a créé les anges. Dieu a créé des créatures célestes qui le célébraient, qui l'adoraient dans le ciel. Et Dieu a créé avec un espace de liberté. Lorsque Dieu a créé les anges, parce que vous savez quoi, là, parce qu'il a créé parce qu'il aimait. Dans la nature de Dieu, il a de l'amour. Et l'amour est créatif. Et Dieu a créé les anges. Et les anges l'adoraient. Les anges le servaient. Mais Dieu n'a pas créé les anges comme un robot.
En disant,
maintenant tu me loues. Maintenant tu te prosternes. Maintenant tu chantes. En appuyant comme dans des boutons. Non, parce que les anges sont libres. Et parce que quand Dieu crée, Dieu crée avec amour. Et dans l'amour, il y a de la liberté. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de liberté. Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Les deux sont liés. Et donc, Dieu a créé les anges. À son image. Amen. Il les a créés spirituels. Il les a créés parfaits. Il les a créés saints. Il les a créés bons. Alléluia! Mais l'un de ces anges, qui s'appelait Lucifer, qui était un séraphin, qui avait à son service toute la louange, qui avait à son service tous les chantres, il s'est dit en lui-même, si moi j'arrête de louer, finalement il n'y a plus de louange dans le ciel. Finalement, si on arrête les chants, si on arrête la musique, dans le ciel, il n'y aura plus personne qui va adorer. Et il s'est dit, bien donc, je suis important, moi.
Et
il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Dans son esprit, dans cet être spirituel, s'est dit, bien, finalement, je peux être au-dessus de Dieu alors. Finalement, je suis important. Et quand il s'est enorgueilli de ce qu'il était, Dieu l'a précipité. Et un tiers des anges qui étaient au service dans le ciel ont été séduits par Lucifer. Et la Bible nous dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Et ils ont été précipités. Et tout à coup, ils se sont retrouvés dans les ténèbres. Et ils se sont retrouvés jetés du ciel. Et depuis, les anges sont devenus des démons. Et Lucifer est devenu Satan. Voilà ce qui s'est passé dans l'univers. Mais Dieu a voulu créer toujours. Et Dieu a voulu créer. Et il a vu que la terre était informe et vide. Et il s'est dit, je vais faire quelque chose sur cette terre. Je vais créer des arbres, je vais créer des animaux. Et je vais créer l'homme à mon image. Et Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il a créé l'homme à son image. Il a créé spirituel. Il a créé bon. Il a créé saint. Et quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas l'ombre de la méchanceté en lui. Toute chose était parfaite sur la terre. Il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait aucun problème. L'homme ne devait pas travailler. Au contraire, Dieu avait dit, bien, voilà, tu as, moi je te donne tout. Tu as une totale liberté dans mon jardin. Il y a là une terre qui t'appartient. Il y a là des animaux. Donne-leur toi-même des noms. Et soumettez toutes choses. Quand vous lisez la Genèse, il est dit, bien, soumettez toutes choses. Dominez sur cette création. Dieu avait créé l'homme pour qu'il domine. Dieu avait créé l'homme pour que toute chose lui soit soumise. Dieu avait créé l'homme avec sa bonté, avec son amour. Et Lucifer, il a vu quelqu'un qui avait été créé à son image. Satan a vu que l'homme avait été créé à l'image de Dieu. Et vous savez quoi, quand Satan a commencé à s'enorgueillir, le péché alors là est né. Et la puissance du péché est née. Il y a une puissance qui est liée au péché. Et cette puissance-là était, elle dominait donc Satan et les anges déchus, les démons. Et quand ils ont vu que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, lui était saint, et lui n'avait pas encore le péché là, il s'est mis à séduire l'homme. De la même manière que les anges, les hommes ont été créés libres. Et Dieu a créé Adam et Ève avec une totale liberté. Mais il leur a dit, vous pouvez tout faire, sauf ne goûtez pas au fruit de la connaissance du bien et du mal. Ni à l'arbre de vie. Et Satan est venu séduire l'homme. Et lui, il a mis dans ses pensées cette pensée qu'il pouvait devenir finalement un Dieu. Et qu'il pourrait finalement s'élever comme Dieu, comme celui qu'il avait créé. Et l'homme a aimé ça. Et quand je parle de l'homme, je ne parle pas forcément d'Adam, je parle de l'homme. D'Adam et de Ève.
Vous
comprenez ça, amen? Ok. Toutes les femmes disent amen. Et Adam et Ève ont été séduits par cette pensée. Et finalement, à partir du moment où ils ont accepté, où ils ont été séduits par cette pensée, le péché est entré dans leur cœur. Et finalement, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et la désobéissance à la parole de Dieu a provoqué dans l'homme sa chute. Et la puissance du péché est venue alors dominer sur lui. Et depuis que Adam et Ève ont péché, nous naissons tous, chaque homme, chaque femme qui naît sur la terre, naît avec la puissance du péché. Chaque homme et chaque femme naît avec cette comment on va appeler ça, cette facilité à pécher. L'homme est vraiment disposé à pécher. Mais encore là, nous avons tous le choix. Et dès le livre de la Genèse, nous voyons cela. Nous voyons que Caïn était jaloux de son frère Abel. Abel offrait des sacrifices à l'Éternel. Et ces sacrifices-là étaient agréés par Dieu. Parce que c'était des sacrifices de sang. En mémoire de ce que Dieu avait fait pour eux. Dans le fait qu'un animal dut être tué pour qu'il soit couvert de peau. Et donc, en ce souvenir-là, Abel devait offrir des sacrifices de sang. Et Caïn, lui, n'a pas compris ça. Il a offert ses propres sacrifices. En fait, il a fait des sacrifices parce que son frère faisait des sacrifices.
Et
il s'est dit, bien, moi, ce que j'ai, moi, eh bien, c'est, ça vaut autant que mon frère. Et il s'est mis à offrir des sacrifices, mais qui n'étaient pas agréés par Dieu, ce n'étaient pas des sacrifices de sang. C'était tout son cœur. Mais c'était pas aussi sincère que son frère. Et alors, la pensée est venue à ce moment-là dans l'esprit de
Caïn.
Et ces pensées, c'était des pensées de meurtre. C'était des pensées de crime. Et avant cela, c'était des pensées de haine. Jusque-là, il n'avait pas encore péché.
Et
la Bible nous dit qu'à ce moment-là, quand Caïn a commencé à être jaloux, il n'avait pas encore péché. L'Éternel a parlé à son cœur, lui a dit, hey, « Hé, Caïn, le péché se couche à ta porte !» Le péché est juste là à la porte. Éloigne-toi. Ferme la porte au péché. Amen. Éloigne-toi de ces pensées-là. Éloigne ces pensées de toi. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu?
Vous
voyez, ça vient quand finalement on n'est pas content, quand nos pensées sont travaillées. Et Genèse 4:7 nous dit certainement si tu agis bien, alors tu vas relever ton visage. Mais si tu agis mal, sache que le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mets-toi, domine sur lui. Mets-toi, domine sur lui. Il y a là une clé, il y a là quelque chose de que vous devez saisir absolument. C'est que depuis la chute d'Adam, vous et moi, nous avons une tendance à pécher. C'est facile pour nous de pécher. Parce que le péché, c'est quelque chose qui en général est bon. Quand nous péchons, nous aimons ce que nous faisons. Amen. Et on va voir le processus destructif, hein, mais au départ, c'est bon. Ça semble bon.
Mais ça semble bon.
Nous apporter quelque chose qui va nous réjouir, qui va nous apporter du bonheur. Oh oui, si je fais ça, je vais être comme Dieu. Oh, donc je serai meilleur. Si finalement, je commence à prendre un joint, wow, ça va me faire du bien. Et finalement, ça fait du bien. Mais on ne comprend pas le processus qui arrive derrière. Qui est un processus d'esclavage. Et de péché qui va dominer sur ce qui nous semblait bien. Et c'est ça le péché. On a cette tendance à pécher parce qu'on est charnel. Et le péché se couche à la porte. Et c'est constamment un combat dans nos pensées. Et la victoire commence quand nous commençons à comprendre ça. Que tout commence dans nos pensées. Dans notre volonté à céder ou pas à ce péché. Ou de céder ou pas à des pensées négatives. De céder ou pas à jeter l'éponge, à baisser les bras. À céder ou pas, de venir ou pas à l'église. De lire ou pas sa Bible. De jeûner ou pas. De prier ou pas prier. Tout ce traite-là Tout se traite dans nos pensées. Et quand on ne sait pas contrôler nos pensées, on
ne
va pas contrôler notre vie. Amen.
Amen.
Le péché se couche à ta porte. Le péché se couche juste là à la porte. Et toutes les décisions que vous prenez, elles sont déjà passées par vos pensées. Et la nature de l'homme, quand l'homme a été créé, c'est pas que le péché domine sur lui. Quand Dieu a créé l'homme à son image, il a créé pour que lui domine sur toute chose. Alléluia! Et écoutez bien ça. Le premier Adam a péché. Mais la Bible nous parle du second Adam. Et vous savez que bibliquement, qui est le second Adam? C'est? Dites-le plus fort que ça, quand même. Avec plus de joie. Le second Adam, c'est? Mais oui! Alléluia! La Bible nous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui a pris un corps charnel, et ce Fils de Dieu-là est créé comme nous, à l'image de Dieu. Alléluia! Amen! Et il est né pur! Il est né saint. Il est né pour dominer. Et il a dominé. Et il a vaincu. Il a vaincu la maladie. Le péché se couchait à la porte de Jésus. Lui aussi a été tenté. Lui aussi a eu des épreuves. Jésus a vécu le rejet. Jésus a été maltraité. On a craché sur lui. On l'a frappé. On s'est moqué de lui. Il a eu des drames familiaux. Joseph, son papa, est décédé dans sa jeunesse. Et il a vécu des drames familiaux. Il a vécu aussi dans la souffrance, dans l'incompréhension. La plupart des choses que vous vivez, Jésus l'a vécu. Et le péché qui était là, prêt à détruire sa vie, il l'a dominé. Et finalement, il est arrivé jusqu'à la croix. Et avant d'arriver à la croix, il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémané. Et dans le jardin de Gethsémané, il a vécu une telle dépression que peut-être que personne n'a vécu une dépression comme ça. Un travail dans ses pensées, un combat là dans ses pensées qui était si fort. Est-ce que je laisse la croix ou est-ce que j'y vais? Ce matin, les Juifs m'ont mis sur un anneau et ils m'ont proclamé roi. Ils ont dit: Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'était facile à ce moment-là de monter sur un trône et de guérir tous ceux qui venaient là et d'imposer les mains là. C'était le chemin le plus facile. Alléluia! Et dans le jardin de Gethsémané, c'est ce à quoi il pense. Et il pense aussi au chemin de la douleur. Il pense aussi à la couronne d'épines qui va venir sur sa tête. Au fouet qui va battre son dos. Il va penser à tout, aux clous qui vont percer ses mains et ses pieds. Il va penser à toute la moquerie. Alléluia! Amen. Il y a ce choix dans sa vie, dans la vie de Jésus à ce moment-là. Et son combat, sa dépression est si forte que les faisceaux de son front éclatent et sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Cliniquement, voilà ce qui s'est passé. C'était si fort, c'était si violent que des grumeaux de sang sont sortis de son front. Et finalement, dans le jardin de Gethsémané, il va prier: Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Et il est passé par la croix. Et à la croix, tout est accompli. Alléluia. Il est parti dans le séjour des morts. Et il a vaincu la puissance qui nous emmène dans ce séjour des morts. Et qui nous amène de là en enfer. Il a vaincu tout cela. La Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia! Il a vaincu. On peut applaudir Jésus ce matin. On peut louer Jésus ce matin. Alléluia! Amen! Là où le premier Adam a échoué, le second Adam a réussi. Et aujourd'hui, si vous acceptez le second Adam comme votre sauveur personnel, si vous acceptez Jésus comme votre
pouce,
alors vous pouvez être certain de votre salut. Et peut-être que vous ne comprenez pas les chemins par lesquels vous passez. Vous aussi, vous êtes comme dans un jardin de
Gethsémané.
Mais il y a le chemin le plus facile, qui est de dire, attends, moi je vais prendre le chemin qui me paraît bon. Mais le chemin qui vous paraît le meilleur, c'est pas forcément le bon chemin. Et moi je crois que la plupart des gens qui traversent des difficultés souvent traversent ces difficultés pour que finalement ils comprennent là où le Seigneur veut les emmener. Souvent, on veut trop diriger nos vies. Écoutez ça. La plupart des gens que je rencontre qui sont en dépression,
qui vivent des drames
familiaux dans leur vie, sont des gens qui veulent tout contrôler. Et finalement, ils arrivent au bout du rouleau. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils ont voulu toujours tout contrôler. S'il fait ça, ben moi je fais ça. Et puis moi je vais faire ça, et puis c'est comme ça que ça se fait. Et finalement, en fait, tout le temps sous contrôle.
Et
finalement, on ne laisse jamais le Seigneur diriger nos vies. Et le Seigneur nous laisse. Parce qu'il nous a créés libres. Et la plupart des choses que nous vivons, il est faux de dire que tout est dans la volonté de Dieu. Et il est absolument faux et mensonger de dire que tout est l'œuvre de Satan aussi. Quand Dieu a créé cet univers, il a créé avec un espace de liberté. Mais avec certaines lois. Et Dieu nous a créés comme ça aussi. Comprenez ce que je suis en train de dire. Là, je fais ce que je veux. Amen. Si je veux lever le bras, je lève mon bras.
C'est
pas Dieu qui lève mon bras là.
Amen.
Et moi, si je veux le descendre là maintenant, à moins qu'il y ait une force extraordinaire, mais je fais ce que je veux. Ok. Et souvent, dans notre vie, ce que nous vivons, c'est le résultat de ce que nous avons fait nous-mêmes, par nous-mêmes. Et après, l'homme, pour se justifier, pour dire, mais attends, regarde où Dieu m'a emmené là. Moi pourtant je suis un chrétien, moi j'aime Dieu. Mais regarde ma vie. Mais c'est pas Dieu qui t'a emmené là. Si je sors maintenant à torse nu dehors, et que j'attrape une bonne grippe, ben c'est pas Dieu qui m'a donné cette grippe. C'est moi qui t'allais la chercher. Amen. Maintenant, bien sûr que c'est dans sa volonté, dans le sens que il va permettre aux lois qu'il a faites de se révéler. La loi que Dieu a faite, c'est que quand il fait froid, il faut que tu te couvres. Quand il fait chaud, il faut que tu te protèges.
Mais
c'est la loi de Dieu, ça. C'est la loi de l'univers qu'il a créé. Et si je transgresse cette loi, eh bien, je suis soumis aux conséquences de cette loi. Maintenant, quand quelqu'un a un enfant handicapé, est-ce que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit handicapé?
Non.
C'est simplement le résultat génétique. C'est un mauvais résultat génétique. Mais c'est pas Dieu qui a voulu absolument qu'il soit handicapé pour faire du mal finalement à ce couple-là pour qu'il recherche Dieu. C'est absolument faux ça. Si vous pensez ça, pardonnez-moi, mais vous avez pas la bonne conception de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dans la nature de Dieu, il n'y a que des choses bonnes. Donc commencez à comprendre qu'il n'y a absolument pas l'ombre de méchanceté, de colère, de vengeance ou de punition dans le cœur de Dieu. Absolument pas. Mais sûr, la parole de Dieu nous parle de jugement, etc. Mais ça n'a absolument rien à voir avec notre vie personnelle. J'ai rencontré moi des personnes, j'ai rencontré une personne il y a quelque temps. Une personne qui avait vécu l'inceste dans son enfance.
Et
cette personne-là, elle était maintenant enceinte d'un enfant. Et dans la conception d'une famille chrétienne, de là où elle était, ben son enfant serait maudit et toute sa génération serait maudite jusqu'à 1000 générations.
Et waouh.
J'ai montré la parole de Dieu que c'était pas vrai. Parce que Dieu est amour. Et on est sous la grâce. On n'est plus sous la loi. On n'est pas sous une condamnation. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il n'y a aucun sort qui peut être jeté contre un chrétien. Écoutez bien ça. Quand quelqu'un vit une difficulté ou on dit oh tiens, est-ce qu'il n'y a pas eu un démon, est-ce qu'il n'y a pas eu un fétiche, est-ce qu'il n'y a pas eu un vaudou qui est venu là dans sa vie? Non! Impossible! Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de choses comme ça qui peuvent venir sur quelqu'un qui est en Jésus-Christ. On est sous la protection du Seigneur Jésus-Christ. On est sous le sang de Jésus-Christ. Maintenant, si de moi-même j'ouvre mon esprit, mon cœur à ces choses-là. Ah bien sûr que là, les démons peuvent venir. Mais si je sers Dieu de tout mon cœur,
il n'y
a rien qui peut m'arriver. C'est ce qui s'est passé là-bas du Bénin, des gens qui essayaient de détruire la vie du frère José et puis de sa famille. Et puis finalement, ils ont dit qu'ils n'y arrivaient pas.
C'est
pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils sont sous le sang du Seigneur Jésus. Alléluia! Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Comprenez ça, mes frères et sœurs, mes amis. Alléluia! Que les choses que nous vivons ne sont pas la faute de Dieu. Quand il nous arrive quelque chose, on est souvent enclin à reporter la faute sur quelqu'un. Mais on commence à être guéri de notre difficulté quand on commence à comprendre ceci. C'est que la première étape de ce grand processus de restauration commence par nous. Seul, on ne peut pas y arriver. Écoutez bien ça. Là, on a fait une grande introduction, mais maintenant, on va commencer la première clé de la restauration. C'est dans ce pronom « nous ».
Mink. Aita, mink.
Si vous êtes dépendant de quelque chose, d'une situation, si vous êtes dans une dépression, dépendant de l'alcool, d'une drogue, ou d'un péché sexuel, ou d'une activité quelconque, on a tous des dépendances. On est tous dépendants de quelque chose. Soit du travail, peut-être d'Internet, peut-être de la télé, peut-être d'un péché. On est tous dépendants. Moi, je suis dépendant de quelque chose. Vous êtes dépendant de quelque chose. À ce moment-là, tout le monde est en train de penser de quoi le pasteur est dépendant. Mais pensez plutôt à ce que vous, vous êtes dépendant. Amen, je ne vous le dirai pas. Donc oubliez le pasteur. Regardez à vous-même. Plusieurs sont dépendants du passé. C'est le passé. Parce que vous avez vécu des événements dans votre passé. Vous avez des réactions aujourd'hui. La plupart des gens qui veulent vous montrer ce qu'ils font, qui ils sont, etc., etc., c'est souvent parce que dans leur passé, ils n'ont pas pu le faire. On leur a toujours dit qu'ils ne savaient rien faire.
Ils étaient
des bons à rien. Tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient mal. Ils n'avaient pas d'amour. Ils n'avaient jamais de câlin. Ou ils étaient repoussés. Et finalement, ce passé-là a développé un caractère et a développé quelque chose dans la pensée de cet homme-là ou de cette femme-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, elle a besoin de se montrer, elle a besoin de se... de montrer qu'elle a de la valeur. Et elle a de la valeur. Et quand quelqu'un réagit comme ça, comprenez pourquoi il agit comme ça. Aimez-le. Montrez-lui qu'il a de la valeur ou qu'elle a de la valeur. Parce que ça va l'aider à guérir. Dépendant du passé. Dépendant aussi des échecs du passé. J'ai vécu des épreuves dans ma vie qui ont totalement transformé mon caractère, ma façon de vivre, ma façon de penser.
Et
finalement, je me retrouve aujourd'hui à être quelqu'un que je n'étais pas avant. Et la réalité, c'est que ce que vous êtes maintenant, c'est vrai, c'est pas ce que vous êtes finalement. Si vous êtes colérique, méchant, etc., c'est pas votre nature. Dieu ne vous a pas créé comme ça. Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez esclave de votre passé, dépendant de votre passé. Comprenez ça, c'est très important, ce sont des clés importantes. Donc ça commence d'abord par nous. Et donc seul, vous ne pouvez pas y arriver. Seul, vous ne pouvez pas être délivré de votre dépendance. Ce n'est pas possible. Tant que vous allez essayer de vous-même, vous allez vous enfoncer. Mais quand vous laissez le contrôle à Dieu, les choses commencent à changer. Et quand finalement vous faites partie du corps de Christ, de l'Église, il y a là une force que vous allez trouver. Alléluia. Amen. La première étape commence par le pronom nous. La plupart des gens aimeraient être libérés et délivrés dans le secret et dans l'isolement. Et derrière cette réaction se cache en fait la peur
des autres,
la peur du rejet et la peur du jugement. Finalement, ce qui est malheureux, c'est que les gens viennent nous voir.
Quand
finalement, c'est au bout du rouleau. Et c'est la réaction, en fait, finalement, normale. Finalement, on a tout essayé, puis Et là, c'est à ce moment-là qu'on doit admettre et avouer et s'avouer vaincu. Pour commencer à guérir et à être restauré, il faut admettre qu'on est perdant. Il faut s'avouer vaincu. Il faut reconnaître la vérité. Et que chacun devrait pouvoir dire, ben voilà, moi je m'appelle Denis et je suis dépendant de ça, je suis pécheur, je suis ceci, j'ai ça et ça dans ma vie. Et il faut que vous soyez capable de le dire.
Il ne
faut pas simplement le penser, mais il faut le dire.
Il
faut le dire à Dieu.
Il
faut le dire peut-être à quelqu'un de confiance qui va vous aider à prier.
Qui
va être avec vous. Parce que c'est ça le soin pastoral. C'est ça prendre soin des autres. L'église, c'est un édifice. L'église, c'est un corps. Et il nous faut être soudés les uns aux autres. Et donc, la pierre qui est à côté de moi, elle doit savoir qui je suis. Alléluia! Et on va se supporter l'un l'autre. Moi, je vais supporter la pierre de quelqu'un là, au-dessus de moi. Et quelqu'un d'autre me supporte en dessous. C'est ça l'édifice spirituel. C'est ça! Construire un temple. Alléluia! Alléluia! Amen! Et comprenez que nous devons nous avouer vaincus. Il a quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans Ésaïe 58, il nous est dit que les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Il n'est pas question de rebâtir sur quelque chose de propre, de saint, de parfait. La promesse de Dieu là, c'est que tu vas être rebâti à partir des ruines que tu es, que je suis. Le Seigneur ne rebâtit pas sur des choses parfaites, il rebâtit sur des ruines. Alléluia! Moi ça me rend confiant. Ça, c'est le miracle de Dieu. Quand il dit, oh, tu seras rebâti. Les ruines qui sont là, mais je vais me servir de ces ruines-là. C'est là-dessus que je vais rebâtir quelque chose. Alléluia! S'il y a une brèche, moi, je ne vais pas casser. Mais je vais arranger cette brèche. Alléluia! Je vais réparer la brèche. Amen. S'il y a quelque chose qui est détruit, moi je vais restaurer. Je
ne
vais pas tout annuler. Amen. Dieu est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume. Il n'éteint pas. Alléluia. Il n'éteint pas cette braise qui fume encore. Mais il est celui qui va se servir de cette braise-là, de ce lumignon qui fume encore, pour remettre une flamme.
Alléluia.
Donc cette première clé, ça commence par nous. C'est, vous devez admettre que tout seul, vous ne pouvez pas y arriver, que vous avez besoin de Dieu, que vous avez besoin de vos frères, de vos sœurs. Vous devez admettre que vous avez été vaincu et que vous êtes impuissant. Amen. Que vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Et quand finalement vous arrêtez de contrôler votre vie, j'abandonne tout.
Parce
que la plupart des gens dans ces situations-là, elles prient, Seigneur, je prie, je pleure. Finalement, je vais encore tout contrôler, là. Je prie, mais j'écoute pas. Je laisse pas faire. Mais quand finalement, je me rends compte et j'admets que je suis faible, quand je laisse toute chose au pied de Jésus, Seigneur, c'est ma vie. Ma vie, c'est, elle est en ruine. Voilà mon passé. Voilà ce que je suis aujourd'hui. Je
ne
peux rien faire tout seul. Je suis impuissant. Je l'admets.
հասկանում եմ։
Բայց enfin là que c'est on va pouvoir commencer à faire quelque chose.
Ահա, մի գործ անել։
C'est finalement quand vous allez redonner votre liberté à Dieu.
Վերջապես եթե ձեր ազատությունը տալիս եք
Աստծո։ Que Dieu va pouvoir diriger quelque chose dans votre vie.
Պարզապես կարողանա ձեր կյանքում ինչ-որ բան անել։
C'est ce que l'apôtre Paul disait.
Ահա ինչ էր ասում։
C'est quand je suis faible.
Եփոս
qu'alors je deviens fort. Alléluia. Amen. Quand je me rends compte que je suis faible, alors je deviens fort. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai plein de choses à vous dire.
On ne va
pas les dire maintenant. Toutes. On va regarder pour la prochaine fois. C'était vraiment théologique ce matin. Mais si vous êtes dépendant de quelque chose, comprenez encore ceci. C'est que tout péché, en principe, vous procure une joie au départ. Comprenez ça. J'ai envie d'avoir du bonheur. Et je veux m'évader parce que j'en peux plus.
Et
alors les gens commencent avec un joint.
Et
puis en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, c'est un pansement, ça.
Ils
se rendent pas compte que c'est simplement un pansement. Pendant quelques heures, là, ils pensent plus à rien. Ils sont dans un état de plénitude, d'insouciance.
Puis
ils disent waouh, c'est cool la vie.
Waouh.
Et finalement, ce petit espace de bonheur là, il le renouvelle. Ça c'est la première phase, c'est l'engouement. Et finalement, on va essayer de répéter cette phase là. Et ça peut être le jeu, ça peut être la nourriture. Ça peut être le sexe, le travail, le sport, Internet, plein de choses comme ça. Quelque chose qui me permet d'oublier. Quelqu'un me disait hier, oh, moi là j'en peux plus, je vais partir une semaine.
Tu peux
partir une semaine, mon ami. Tu peux tout quitter pendant une semaine.
Mais
quand la semaine sera finie, ce sera pareil. Et finalement, c'est toujours des pansements qu'on met. Quand on ne comprend pas ça, et bien finalement, on continue et on veut faire ça de plus souvent. Et finalement, on va devenir dépendant. Et ce dont on est dépendant, finalement, on se rend compte qu'on est trahi par la substance que l'on prend. Parce que ce qui nous procurait pendant un temps de la joie, finalement, on en devient esclave. Alors, il y a toute une escalade là. Parce qu'on est déçu, alors on veut retrouver l'état de plénitude et on fait encore plus qu'avant. On veut en prendre plus, on veut faire plus de choses. Et le piège, c'est qu'on s'enfonce. Et c'est qu'on n'y arrive pas. Et moi j'aimerais vous dire ce matin, Église, mes frères, mes sœurs et mes amis, vous qui connaissez des personnes qui sont en proie avec leurs problèmes, avec leur dépendance, avec le péché qui domine sur eux, on vit dans un monde de ténèbres, et le péché se couche à la porte, voulant détruire. Reposez-vous sur Jésus. J'aimerais qu'on puisse regarder, pour terminer, juste une petite vidéo. C'est pas quelque chose de risible. D'habitude, je vous présente quelque chose qui vous fait rire, qui vous fait réfléchir aussi.
J'espère.
Mais là, c'est une chanson. Et cette chanson, c'est encore possible. Si vous les regardez, vous pouvez regarder, mais si vous pouvez plutôt fermer vos yeux quelques instants.
Et peut-être
vous qui vivez des situations ou qui connaissez quelqu'un qui vit ces situations,
je veux
que vous puissiez fermer vos yeux et écouter les paroles. Et je prie que le Seigneur parle dans vos cœurs au travers de ce chant. Et ensuite, on va prier.
Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs. Il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible.
Fermons nos yeux quelques instants. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur.
C'est encore possible de vivre l'aigle passé, de reprendre force et vie dans la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés. Le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées, c'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés, et de vivre sans bonheur. C'est encore possible de
de regret.
C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu,
voir au-delà de tout ce qu'on a perdu,
de bien faire la joie de ceux qu'on a aimé,
de faire la joie de ceux qu'on a aimé. C'est possible.
Et de vivre sans bonheur.
Amen.
Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays.
Il y a de l'espoir, cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. C'est encore possible.
Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu.
Alléluia.
Levons-nous. Il est capable de faire fleurir encore l'amour.
Levons-nous ce matin, alléluia. Combien croient que c'est encore possible? Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour ce chant magnifique. Alléluia. Et ce matin, amen, j'aimerais que nous puissions lever nos mains vers le Seigneur en disant, Seigneur, je crois, Seigneur, que c'est possible. Alléluia, tu rebâtiras sur d'anciennes ruines. Seigneur, tu restaureras les chemins, Seigneur. Tu béniras, Seigneur, tu répareras les brèches. Seigneur Jésus, alléluia, tu vas le faire. Élevons nos mains vers le Seigneur. Louons le Seigneur quelques instants. Seigneur Jésus, je crois, Seigneur. Seigneur, à ce miracle. Seigneur, à ta volonté dans nos vies. Oh Seigneur, fais-le. Seigneur, nous te donnons tout, Seigneur. Nous abandonnons toute chose à tes pieds. Seigneur, déchargez-vous de tous vos soucis. Alléluia. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je prendrai soin de vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous soutenir par ma droite triomphante. Alléluia. Je réparerai les brèches. Je restaurerai les chemins.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.